verset 28, donc texte bien connu. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Et un petit peu plus loin, il dit « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu ». Et puis, on va dans l'évangile de Luc, chapitre 7, verset 28. Le lien entre les deux lectures ne sera pas évident à faire, mais on le fera rapidement. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser pour lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Dans le premier texte que nous avons lu dans Romains chapitre 8, il est question du dessein de Dieu, du plan de Dieu. Dieu, il a un plan pour chacune de nos vies, pour votre vie. Un plan qui trouve sa source dans le cœur de Dieu, dans l'éternité, avant la création du monde. Un plan qui a pour but le salut de votre âme. Dieu veut pardonner vos péchés, il veut vous donner sa justice. Il vous appelle par l'évangile, et puis il donne sa justice, il vous sauve, et son but est de vous mener dans la gloire éternelle. Voilà le plan de Dieu. Dieu a tout mis en œuvre pour accomplir ce plan dans votre vie. Il a donné sa vie sur la croix. Mais l'autre texte que nous avons lu nous parle de pharisiens et de docteurs de la loi qui ont rendu nul le dessein de Dieu à leur égard. C'est-à-dire que par leur attitude, Dieu n'a pas pu accomplir son plan. Je reprends ce que je viens de dire. Dieu a un super plan pour chacune de nos vies. Il veut nous sauver. Il veut pardonner vos péchés. Il veut vous conduire dans la gloire éternelle. Mais chacun d'entre nous, on peut rendre nul, empêcher l'accomplissement de ce plan à notre égard. C'est ce que nous avons lu dans ce texte. La Bible nous montre que Dieu nous sauve pour un but. Bien sûr, il veut pardonner nos péchés, mais il veut nous conduire. La Bible nous dit que c'est pour des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Malheureusement, il est possible de faire échouer ce plan. Dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit de veiller à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Ça veut dire que par mon attitude, je peux passer à côté de ce que Dieu veut me donner. Je peux passer à côté de la guérison divine. Dans le cas où il est précisé, c'est Ésaü, on peut passer à côté d'une promesse ou d'une bénédiction. Je peux passer surtout, et c'est le plus grave, à côté du plan de salut de Dieu pour ma propre vie. Je voudrais considérer cet après-midi quelques attitudes qui peuvent faire échouer le dessein de Dieu dans nos vies ou dans votre vie. Et la première attitude, c'est le refus du baptême. Je reviens sur le texte que j'ai lu dans Luc chapitre 7. Il nous est dit que les pharisiens et les docteurs de la loi ont rendu nul le dessein de Dieu à leur égard parce qu'ils ont refusé de se faire baptiser. Jean-Baptiste est venu avec un message de repentance. Et il a proposé quelque chose, certes inspiré par le Saint-Esprit, quelque chose pour signifier cet engagement, cette décision de la repentance. Le baptême d'eau. Il faut savoir que les Juifs avaient beaucoup de rituels avec l'eau. Et c'était l'occasion un petit peu de marquer le baptême de Jean-Baptiste est différent de celui que nous pratiquons aujourd'hui. C'était un baptême de repentance. Alors que à partir du moment où Jésus est venu, nous parlons d'un baptême qui implique la nouvelle naissance. C'est-à-dire que le baptême de Jean-Baptiste c'était une décision de se repentir. Alors que Jésus, le baptême en Christ, c'est une baptême où on est né de nouveau, on est passé par la repentance et on est rentré dans la vie nouvelle. Il y a une différence. Mais le refus de l'un ou de l'autre, quelque part, empêchait Dieu d'accomplir son dessein. Et la parole est très forte et ils ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu parce qu'ils ont refusé. On a tous connu des personnes qui sont venues écouter l'évangile. Moi, j'ai le souvenir d'une personne qui non seulement venait écouter l'évangile, mais elle avait tout capté. Elle avait saisi la grâce, elle savait que Jésus avait pardonné ses péchés, mais elle refusait de se faire baptiser. Alors c'était quelque chose, et son mari venait là, on l'entendait toujours prier pour son église. Et elle venait de temps en temps, mais elle refusait pourtant, elle disait, elle est née de nouveau. Alors je sais que j'ai pris à cœur cette situation, et quelle joie! Quand j'ai, bien des années plus tard, mais je peux vous dire que ça dure au moins une vingtaine d'années, quand j'ai appris qu'elle s'était engagée. Mais quelle position délicate que de rester née de nouveau et de ne pas s'engager. Alors souvent derrière le refus du baptême, il y a un autre refus. Un refus de repentance, un refus d'engagement. Il y a souvent, mais je voudrais dire à quelqu'un, si tu es né de nouveau, ne tarde pas, il faut t'engager. Ne rend pas nul le dessein de Dieu à ton égard. Et il y a une autre attitude qui peut empêcher le dessein de Dieu de s'accomplir. C'est la temporisation. Je remets à demain ce que je dois faire aujourd'hui par rapport au salut et à ma décision. L'apôtre Paul s'est retrouvé un jour à Athènes. Et dans cette ville, à un moment donné, il a eu l'occasion de pouvoir parler de Jésus. Alors il a prêché l'évangile, on l'a invité. Et il a commencé à parler de Jésus, à parler de la repentance, de la résurrection, des morts, etc. Et quand ils ont entendu ce message, qu'est-ce qu'ils ont dit ? On t'écoutera une autre fois. Ils ont remis à plus tard la décision qui devait être prise maintenant. Mais nous le savons, des fois on remet à plus tard, mais plus tard ça veut dire jamais. Combien de fois des personnes ont remis à plus tard la décision qu'ils devaient prendre aujourd'hui ? Et il n'y a jamais eu de plus tard. Je me rappelle avoir été marqué par un petit livre que j'avais lu, enfin une histoire que j'avais lue. C'était l'histoire d'un jeune qui a grandi dans l'église. Il connaissait tout et il disait toujours plus tard. Et puis un jour il s'est marié et il venait de temps en temps et c'était toujours plus tard. C'était toujours plus tard. Et sur son lit de bord, c'était trop tard. Je peux plus. C'est plus possible. Ça, c'est une voix diabolique qui dit souvent, plus tard, amuse-toi maintenant, t'as le temps, vas-y, plus tard, quand tu seras un peu plus vieux. Mais on ne maîtrise pas le passé, on ne maîtrise pas l'avenir, le seul temps qu'on maîtrise, c'est le présent. Et le temps de Dieu, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Je me rappellerai toujours ce 6 juin 93, jour de mes 26 ans. C'est clair, c'est net. Et là, on était dans un week-end de jeunesse et je voulais faire cette démarche. Et il y a une sœur qui m'a pris par le bras. Elle m'a dit, Joël, c'est maintenant. Et il y avait plusieurs jeunes qui s'étaient mis à genoux au milieu. La salle était en rond. Et elle m'a amené. J'ai fait pareil. Et j'ai ouvert mon cœur au Seigneur. J'ai dit, vas-y Seigneur. J'ai ouvert et Dieu a fait de moi une nouvelle créature ce jour-là. Dieu a changé ma vie. Mais j'entends encore sa voix. C'est le moment. C'est maintenant. Il faut y aller. C'est vrai qu'il y a des choses des fois secondaires, c'est bien de le remettre à plus tard. Vous avez des personnes, elles sont stressées, elles veulent tout faire tout aujourd'hui. Non, il y a des choses, c'est bien de les remettre à plus tard. Mais les choses secondaires, mais les choses concernant le salut, concernant l'éternité, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Je ne peux pas remettre à plus tard la décision du salut. Dans l'église où j'ai grandi à Décines, il y avait le dimanche après-midi, il y avait un jeune qui, un jour, j'ai eu la joie de le voir revenir. Il avait été au groupe d'ados avec moi et je le voyais revenir, alors j'étais content. Et chaque fois que je le voyais après la réunion, j'allais le saluer, je lui mettais la pression pour qu'il donne son cœur au Seigneur. Et j'y reste pas dans cette position, donne ton cœur au Seigneur. Et chaque fois, il répondait de manière un peu évasive, c'était pas clair, c'était pas net. Et je me rappelle un jour, j'ai parlé un petit peu comme ça, j'avais mis un peu plus de pression. Et puis quelques jours après, 2-3 jours après, il allait sur le périph faire un dépannage, il était mécanicien. Et en faisant le dépannage, il s'est fait happer par un camion, tapé là, il est mort sur le coup. Et alors ça a été un choc, hein, on avait grandi ensemble et j'avais rien pour m'accrocher. Et je me rappelle encore plus quand sa maman elle est venue vers moi, parce qu'elle m'avait vu parler à la réunion d'évangélisation. Elle voulait dire, est-ce qu'il t'a dit quelque chose? Elle aurait voulu dire, oui. Elle aurait voulu que je dise, oui, il m'a dit qu'il était sauvé, mais je ne pouvais rien lui dire. C'est rude. Parce qu'il a temporisé. Ce n'est pas à moi de me prononcer sur son éternité. Mais ça aurait été tellement mieux même pour la consolation de cette maman s'il y avait cette certitude du salut en Jésus-Christ. Ne remets pas à plus tard la décision qui doit être prise aujourd'hui. Parce qu'avec ce genre de calcul, on en a perdu en route des personnes. Il y a une troisième attitude, on peut lire un texte, puisqu'on est toujours dans l'évangile de Luc. Vous tournez de page dans l'évangile de Luc, chapitre 10. Verset 13. Jésus a une parole étonnante sur des villes. Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'aux cieux, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Parole un petit peu étonnante de Jésus qui parle sur des villes. On a du mal des fois à comprendre. Mais ce que l'on comprend, c'est que Jésus est allé dans ces villes. Il a fait du bien. Il a guéri des malades. Des miracles se sont produits et qu'il n'y a pas eu la réaction espérée. Et quelque part, dans ces villes, on est passé à côté. On est passé à côté, pourquoi ? Parce qu'on a été indifférent au message. On a su prendre la guérison, mais pas plus. Ça me rappelle un autre texte dans Matthieu chapitre 22, verset 5, quand il nous est dit qu'un roi voulut faire un festin et un grand pour son fils. Et il va lancer les invitations. Et il nous est dit, certains sans s'inquiéter de son invitation, un tel est au champ, l'autre voir ses affaires, etc., etc. L'indifférence peut rendre nul le dessein de Dieu à mon égard. À des fois, on entend toutes sortes de choses. On est une génération marquée par l'indifférence. Même si on est capable de s'extasier sur le moment, nous sommes une génération qui a comme le cœur insensible, comme la graisse. Vous savez la graisse, vous mettez le doigt dedans, il y a la marque. Mais 10 minutes après, il n'y a plus rien. C'est revenu à son état. Eh bien, nous sommes un peu cette génération-là. On est capable de s'extasier devant un but de Mbappé ou devant un chanteur qui meurt. Mais 3 jours après, on a oublié. Et une semaine après, s'il rate son pénalty, on lui tire dessus. Je veux dire, on est comme ça, on est une génération qui est marquée par l'indifférence. Et parce que ça vient certainement du poids de l'image et du matraquage des médias. Je me suis dit, je me fais cette réflexion, si Jésus revient juste avant une coupe du monde, l'enlèvement de l'église, ça va passer comme une lettre à la poste. Ah, les gens vont dire, qu'est-ce qu'ils sont partis où? Et puis la coupe du monde démarre et c'est fini. Je le dis comme ça d'une manière un peu ironique, mais c'est triste. Ça montre un petit peu l'état de notre génération qui est complètement indifférente et matraquée. Et on est marqué un petit peu comme ça. On est sous le poids de l'image, mais on a tellement d'images sous les yeux aujourd'hui qu'il faut voir des trucs chocs. Ah, si on pouvait présenter une vidéo de l'enfer, je peux vous dire que là, ça produirait quelque chose, mais on ne l'a pas. Pourtant, c'est une réalité. L'indifférence, elle vient aussi que les priorités sont mal placées. Hein, pour certains, ce qui prime, c'est l'abondance matérielle, c'est le plaisir, c'est bien manger, c'est la notoriété, c'est la santé. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est quoi? C'est l'éternité, c'est où est-ce que je vais, c'est le pardon de mes péchés, c'est pas mon corps, c'est mon âme. Jésus a dit que servirait-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Et parce qu'on est des fois indifférent au message de l'évangile, on rend nul le dessein de Dieu à notre égard. Et puis, l'indifférence, elle vient aussi souvent du fait qu'on ne se sent pas concerné. Des fois, quand on parle de Jésus dans une visite ou l'entretien, les gens disent « Ah oui, c'est bien pour ceux qui ne sont pas dans le droit chemin pour les redresser ». Mais tout le monde n'est pas sur le droit chemin. Tout le monde a besoin d'entrer sur le bon chemin. Certains pensent que c'est bon pour les faibles, pour ceux qui sont seuls. Mais l'évangile, c'est bon pour tous. Et c'est important pour tous parce que c'est pour tous les pécheurs. Et la Bible nous dit qu'il n'y a que des pécheurs. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont perdus, mais tous peuvent être sauvés par le don de Jésus-Christ. Mais l'indifférence peut faire passer quelqu'un à côté du plan de Dieu. C'est quand même triste, Dieu a tout accompli. Dieu a donné sa vie. Christ est mort sur la croix. Et vous avez... Certaines ne réagissent pas, comme si on était un petit peu anesthésié par toutes sortes de traitements. Et c'est, ça doit nous faire réagir. Dans Matthieu chapitre 15, verset 1er, une autre attitude qui peut empêcher le plan de Dieu dans notre vie, l'action de Dieu. Matthieu chapitre 15, verset 1er. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus dire « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. » Et il leur répondit « Et vous ? Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ? Car Dieu a dit « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Mais vous, vous dites « Celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. » Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Vous annulez la parole de Dieu. Vous empêchez l'action de Dieu dans votre vie. Ce qui peut empêcher l'action de Dieu dans votre vie, c'est la tradition. Ou plutôt le cloisonnement ou l'enfermement dans une tradition. Alors il faut expliquer certaines choses sur ce qu'on appelle la tradition. La tradition n'est pas forcément mauvaise. Elle n'est pas mauvaise en soi. Le mot dans la Bible signifie « instruction ». Et certaines traditions ne sont pas mauvaises. Ce qu'il faut comprendre, pour comprendre un petit peu la tradition, par exemple, il y a le commandement et la tradition. Un commandement, la Bible dit « Saluez-vous ». On se fait la bise, c'est une tradition. Nous, on se fait une bise, on peut se donner une bonne poignée de main, on peut se faire une accolade. Vous voyez, ce qui est important, c'est qu'on salue. Après, il fait la bise, il salue la main, on fait comme il veut. D'accord ? Hein, pour refaire la différence entre le commandement et la tradition. Mais quand je place la tradition au-dessus, je donne plus d'autorité à la tradition qu'au commandement, là ça dérape. Il faut savoir que les Juifs avaient le commandement, mais avaient rajouté toutes sortes de commandements dessus, et donné plus d'autorité à tous ces commandements qu'on appelait la tradition. Le résultat, c'est qu'ils étaient avec leurs œillères, ils mélangeaient les priorités, ils étaient faussés dans leur jugement. Et ils étaient complètement imperméables au message de l'Évangile. Combien de personnes ont été placées au contact de l'Évangile, ont entendu le message de l'amour de Dieu, ont entendu que Jésus-Christ les aime, ils ont entendu ce que Jésus a fait, et parce qu'ils n'ont pas pu sortir de leur tradition, ont empêché l'action de Dieu dans leur vie. Lorsque je travaillais dans un cabinet comptable, c'était le travail où j'étais, je témoignais à plusieurs et j'avais donné une Bible à une comptable du bureau et elle avait commencé à lire. Alors chaque jour, elle venait me faire part des découvertes qu'elle avait faites. Alors des fois, elle me disait « Oula, mais la Bible, elle est sévère avec les femmes. » Alors j'équilibrais. Elle découvrait ça. Après, un jour, elle me disait, mais il n'y a pas de pape dans la Bible. Ben, je dis, non, tu vois. Et puis un jour, elle venait et me dit, mais il n'y a pas de baptême d'enfants. Enfin, à chaque fois, c'était, je faisais qu'accompagner, c'est découvrir. C'est ce qu'elle découvrait. Et puis un jour, elle me dit, mais Marie, Jésus, il est même dur des fois avec Marie. Elle comprenait. Et puis, à un moment donné, elle a compris que ça allait l'obliger à quelques changements, à quelques décisions, c'est-à-dire que oula, mais ça remet beaucoup de choses en cause. Et quand elle a commencé à en parler, on lui a vite mis la pression, mais si tu quittes ça, tu quittes ça, ça. Et un jour, elle est revenue me voir, fait, j'ai arrêté la Bible, j'ai recommencé à prier Marie, elle s'est enfermée, elle a tiré le rideau. Ça m'avait fait mal, hein, vous le comprenez, c'était elle tirait le rideau, voilà. Alors qu'elle était en train de s'ouvrir comme une fleur, elle baissait le rideau. Et elle a empêché. La tradition, ou l'enfermement dans la tradition l'avait empêché de saisir la grâce de Dieu et d'entrer dans le plan de Dieu. Et combien de personnes? L'apôtre Paul, il était enfermé dans sa tradition. Et au niveau de la tradition, des commandements, c'était le champion. C'était le plus pharisien des pharisiens. Il le dit à un moment donné avec ses mots, mais il était parfait même dans ce domaine. Et quand il a découvert le plan du salut, et la grâce, plus jamais il remet les pieds là-dedans. Il en sort complètement de la tradition, il découvre la grâce, et il va être l'apôtre de la grâce. Et je crois que c'est quelque chose de beau. Une autre attitude qui empêchera bien sûr le plan de Dieu de se réaliser dans ma vie, c'est l'incrédulité. Il nous est dit ceci dans Marc chapitre 6, verset 5. Jésus ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit, et il s'étonnait de leur incrédulité. Dans Matthieu, c'est dit un petit peu autrement, il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. L'incrédulité, c'est pas le doute, on fait la nuance. L'incrédulité, c'est un refus de croire. Et le refus de croire empêche le dessein bienveillant de Dieu de s'accomplir. Le plan de la grâce fonctionne non pas avec des compétences, fonctionne non pas avec un niveau intellectuel, mais il fonctionne avec la foi. Et la foi, c'est quelque chose de puissant, mais l'incrédulité, c'est aussi quelque chose de puissant. Et l'incrédulité peut empêcher le plan de Dieu de s'accomplir dans nos vies. Combien de personnes sont là, mais refusent de saisir la grâce, saisir le message de l'Évangile. Et Dieu veut susciter la foi, mais l'incrédulité, c'est au fond de nous. La Bible dit tout est possible à celui qui croit en Jésus. Mais finalement, rien ne devient possible avec l'incrédulité. La puissance de l'incrédulité, on la retrouve particulièrement dans une scène de la Bible. C'est lorsque Moïse a envoyé ses 12 espions et qui sont revenus. Et vous connaissez l'histoire. Josué et Caleb ont fait un bon rapport. On dit « Dieu va nous aider ». Mais les 10 autres ont laissé parler leur ressenti humain. Ils ont laissé parler leur fond incrédule. Et plutôt que de dire « Dieu a dit qu'il va nous donner ces pays, même si c'est dur, même s'il y a des géants, il l'a dit, il le fera », ils ont dit « Mais on n'y arrivera pas, on va se faire manger, on va prendre une raclée ». Et ils ont commencé à parler comme ça, à laisser parler leur ressenti. Le résultat, c'est quoi? C'est que toute la nation va les suivre et une génération complète va passer à côté du dessein de Dieu, à côté du plan de Dieu. Pendant 40 ans, pour qu'une génération passe, ils vont passer à côté du dessein de Dieu. Mon ami, ne sois pas incrédule, mais crois. Crois dans le message, la grâce. Crois dans ce que Jésus peut te laver de tous tes péchés aujourd'hui. Jésus peut te nettoyer au plus profond de ton cœur. Là où la psychologie ne peut pas aller, là où je ne sais quel médecin ne peut pas aller, la grâce de Dieu, elle peut y aller. Et puis, une dernière attitude, forcément, c'est le refus de la repentance. Alors, tout est un petit peu lié, l'un entraînant l'autre. Dans Luc chapitre 13, on va rapporter à Jésus deux faits divers, des faits divers qu'on retrouve facilement aujourd'hui. Il est question d'une tour qui s'est effondrée sur des hommes, et ça a fait 18 morts. Et puis, on rapporte aussi à Jésus l'histoire de personnes qui sont venues offrir des sacrifices, et puis ça a dû tourner à l'émeute, les Romains sont intervenus et ils ont tué tout le monde. Des faits divers. Et on voulait savoir ce que Jésus il en pensait, peut-être qu'ils allaient dire, Jésus allait leur dire, oula, ceux-là ils sont vraiment pour mourir comme ça, ils étaient vraiment mauvais. Mais Jésus va dire par deux reprises, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Et Jésus montrera là l'importance de la repentance, l'importance de vouloir changer de vie. Lorsque j'entends l'appel de Dieu, lorsque je réalise que Jésus a donné sa vie sur la croix, ça doit produire un changement qui s'appelle la repentance. Je dois changer de vie. Si je refuse d'aller dans ce sens-là, j'empêche Dieu d'agir dans ma vie. Vous avez des personnes qui ont bien compris le message. Et parce que le Saint-Esprit a mis le doigt sur un péché et qu'elles n'ont pas voulu le régler, elles ont voulu rester dans leur péché, et bien ça a empêché Dieu d'agir. Combien de fois j'ai été placé dans des situations où je ne comprends pas pourquoi ça ne se débloque pas. Et puis un jour vient la lumière et je découvre que la personne avait un jardin secret. Un péché qu'on ne voulait pas traiter. Quelque chose qui était là et forcément Dieu lui voit tout ça. Et ça l'empêche. Ça l'empêche d'agir. Je pense au jeune homme riche. Ah, il a pas, ce qu'il a refusé, c'est quelque part de se repentir. Il était là attaché à son argent et de lui dire « place-moi en premier ». Mais il a refusé et il est reparti tout triste. Il est passé à côté du plan de salut, à côté du plan de Dieu. Le plan de Dieu, le dessein de Dieu, c'est quelque chose de grand. Dieu veut exercer sa grâce dans nos vies. Le Dieu du ciel, il veut habiter dans notre cœur. Le Dieu vivant et vrai veut transformer notre vie. Dieu veut pardonner nos péchés. Il veut nous laver au niveau de nos yeux, de nos convoitises, de notre conscience, à tous les niveaux. Jésus veut faire un grand ménage, apporter la vie. Et tout est en place de son côté. Jésus a dit sur la croix, tout est accompli, ça veut dire tout est fait de son côté. Mais après, il y a notre part. Tu peux annuler le dessein de Dieu en refusant d'obéir et de t'engager. Tu peux annuler le dessein de Dieu en restant enfermé dans ta manière de voir et dans ta tradition. Tu peux annuler le plan de Dieu en remettant à demain la décision que tu dois prendre aujourd'hui. Tu peux annuler le plan de Dieu en refusant de lâcher un péché que le Saint-Esprit pourtant t'a montré. On peut toutes sortes d'attitudes qui peuvent empêcher le dessein de Dieu de s'accomplir. Pour ceux qui ont découvert Jésus, qui sont rentrés dans le plan de Dieu, dans le dessein de Dieu, on se dit toujours, on a bien fait. On a vraiment bien fait. Passez pas à côté cet après-midi, on va prier le Seigneur. Seigneur, tu es là au milieu de nous et tu es celui qui veut exercer ce dessein, ce plan du salut. Tu veux sauver tout simplement cet après-midi. Tu veux donner ta justice. Tu veux faire naître d'en haut. Tu veux faire entrer quelqu'un dans le royaume des cieux. Et je prie, Seigneur, pour que les attitudes que nous avons vues, Seigneur, ne puissent pas empêcher quelqu'un le plan de Dieu de s'accomplir. Je prie pour qu'il y ait la foi. Je prie pour qu'il y ait la décision de s'engager. Je prie, Seigneur, pour qu'il y ait vraiment une démarche de cœur authentique, pour que la grâce de Dieu s'accomplisse. Merci d'agir maintenant, dans le nom de Jésus. On est dans le recueillement et je voudrais inviter quelqu'un.